France Info.
h 30 politique, bonjour. Comme chaque samedi à la même heure sur France Info avec Jannick Halimi. Bonjour Jannick.
Bonjour Mathéo.
Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France. C'est vous Jannick qui posez la première question à notre invité du jour, Geoffroy Didier. Il est député européen et secrétaire général délégué des Républicains.
Bonjour Geoffroy Didier.
Bonjour.
La semaine dernière, il y avait une attaque au couteau dans les rues de Paris et quelques heures plus tard, vous estimiez que le gouvernement avait été impuissant. Vous ne trouvez pas que ce sont des propos exagérés, surtout qu'hier on apprenait qu'un attentat avait été déjoué?
Je crois que la menace terroriste est en permanente évolution et malheureusement intacte. Et que le rôle d'un responsable politique, le rôle d'un gouvernant, c'est d'essayer d'imaginer des solutions nouvelles visant à mieux protéger nos concitoyens sur l'ensemble du territoire national. Et avec Laurent Wauquiez, autour des Républicains, nous faisons des propositions pour améliorer le dispositif qui existe aujourd'hui contre le terrorisme. Nous proposons, par exemple, d'interner de manière préventive les fichiers radicalisés les plus dangereux. Nous proposons un délit d'incitation à la haine de la France et d'expulser les étrangers, comme d'ailleurs tous les étrangers fichés S, du territoire national. Et nous proposons de refuser le retour des djihadistes qui sont allés combattre en Syrie ou en Irak. Nous proposons un panel de propositions dont nous aimerions que le gouvernement puisse, certes, les reprendre à leur compte, mais au moins, en tout cas, accepter d'en étudier la possibilité.
Sur la forme et le fond, je vais rebondir sur la question de Jannick, si vous permettez. D'abord, écoutez ce qu'a dit sur le sujet votre président, Laurent Wauquiez. C'était jeudi, lors de l'émission politique sur France 2.
Ce que je ne peux pas continuer à accepter, c'est ce qu'on a après chaque attentat. La même scénographie, le même moment d'union nationale. Et à la fin, rien ne change, rien ne bouge. Et on a un gouvernement qui nous explique qu'on ne peut rien faire. Ça n'est pas vrai.
Est-ce que ce n'est pas aussi un peu la même scénographie de la part de l'opposition? C'est-à-dire qu'on a quand même des dispositions de l'état d'urgence qui ont été inscrites dans la loi en octobre. Une cinquantaine d'attentats déjoués, Jannick le rappelait, depuis 2015. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire de plus? Est-ce qu'il faudrait une surveillance derrière chaque fichier S dans la rue tous les jours? Comment on aurait pu empêcher ce drame-là?
Ce n'est pas ce que nous proposons. Vous avez entendu les propositions que je viens de vous faire et qui sont sans cesse caricaturées.
Non mais vous ne pouvez pas dire que le gouvernement ne fait rien.
Mais est-ce que j'ai dit, depuis le début de cette émission, que le gouvernement ne fait rien?
Laurent Wauquiez l'a dit au moins à demi-mot.
Mais restons mesurés dans nos propos, mais restons aussi offensifs face à la menace terroriste. Je vous énonce des propositions que nous faisons au nom des Républicains. Je me souviens quand même que Emmanuel Macron a fait toute sa campagne sur le pragmatisme, sur l'ouverture d'esprit, sur « je suis à la fois de droite et de gauche ». Comment se fait-il que lorsque des propositions qui manifestement suscitent l'adhésion populaire, je regarde sondage après sondage à quel point nos propositions sont sollicitées par l'opinion publique. Comment se fait-il que lorsque des propositions visant à mieux protéger nos concitoyens contre le terrorisme viennent des Républicains, elles sont systématiquement balayées d'un revers de main par le gouvernement. Et en réalité, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le sectarisme et l'esprit de fermeture de ce gouvernement sur un défi qui est majeur et qui nécessiterait, pour le coup, une unité nationale, non pas par l'émotion, mais avant tout par l'action.
Oui, mais Geoffroy Didier, vous prenez l'unité nationale, vous dites que
par
le gouvernement, par l'action, fait du sectarisme. Il n'empêche qu'il y a une partie de vos troupes même qui n'est pas d'accord avec certaines de vos propositions, notamment les fichiers S, le retour, même partiel, au droit du sang. Voilà. Donc, même au sein de vos troupes, vous n'arrivez pas à faire consensus autour des mesures proposées par Laurent Wauquiez.
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'avis, certes respectable, de tel ou tel membre du bureau politique des Républicains.
On va y revenir d'ailleurs.
Ce qui m'intéresse...
Il y a aussi le président de la commission des lois du Sénat qui met énormément de réserves sur vos propositions sur les fichiers S qui seraient anticonstitutionnels, vous le savez.
Je donne priorité au peuple français, à ses attentes et à ses aspirations légitimes d'une meilleure protection. Ensuite, on peut discuter techniquement de la faisabilité des propositions que nous faisons. Moi, je suis convaincu que nous devons aujourd'hui faire évoluer le droit parce que le droit n'est pas immuable et intangible, et que nous avons même le devoir de faire évoluer le droit et de ne pas nous arrêter à des difficultés techniques. Sinon, ça ne sert à rien de
juridique,
faire de la politique.
Geoffroy Didier, juridique,
juridique, c'est bien pour technique. Ça que j'ai commencé par vous dire que le droit devait évoluer. Et effectivement, à droit constant, nos propositions seraient peut-être difficiles à mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous proposons de faire évoluer le droit. C'est précisément le rôle d'un responsable politique de s'adapter aux réalités, quitte à faire évoluer le droit et à lever les difficultés techniques lorsqu'elles existent.
Vous pensez qu'Emmanuel Macron doit recevoir les chefs de parti comme lui a demandé Laurent Wauquiez ?
Mais bien entendu. Mais je serais même très surpris.
Ça changerait quoi dans les médias ?
Mais justement, qu'on mette sur la table les différentes propositions, ce qui changerait, c'est peut-être que nous trouverions des solutions nouvelles pour protéger au mieux nos concitoyens. Bien sûr que le risque zéro n'existe pas. Bien sûr que la sécurité absolue n'existe pas. Mais une fois qu'on a dit ça, j'ai entendu le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, venir à la télévision, vous dire « nous n'avons pas les moyens d'empêcher de nouveaux attentats ». Eh bien, dans ces cas-là, qu'il prenne sa retraite anticipée, certes, Benjamin Griveaux, parce que le rôle d'un responsable politique, c'est d'imaginer des solutions nouvelles. C'est ce que nous faisons. Et puis, moi, je vous pose aussi la question. Je ne vous entends pas critiquer le fait que, par exemple, des immigrés clandestins puissent être internés de manière préventive dans des centres de rétention alors qu'ils n'ont pas été condamnés par la justice judiciaire. Comment se fait-il que vous acceptez que des immigrés clandestins puissent être internés de manière préventive et que vous seriez surpris, voire peut-être même choqué, que des personnes qui sont des menaces à la sécurité nationale, qui risquent effectivement, parce qu'ils ont été signalés par les services de renseignement...
Est-ce que vous voudriez qu'on fasse des immigrés clandestins qui sont rentrés et qui attendent de voir le juge ou, la police statuer sur leurs conditions avant de les rapatrier dans un pays qui pourrait ne pas les accueillir?
Pour être précis, lorsqu'ils sont en centre de rétention, c'est qu'en réalité, il a déjà été considéré qu'ils ne pouvaient plus rester sur le territoire et ils ont déjà reçu ce qu'on appelle un OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français.
Oui, tout à fait, mais il faut que leur pays d'accueil les reçoive.
Ce que je veux vous dire, Jannick Halimi, c'est que lorsqu'on peut mettre des immigrés clandestins dans nos centres de rétention, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas interner de manière préventive et privée de liberté tous ceux qui sont une menace réelle pour la protection de nos concitoyens.
8h30 politique sur France Info. À 8h40, on refait un point sur toute l'info avec Marc Potvin.
Pas de jeans, encore moins de t-shirts aujourd'hui au château de Windsor. Le code vestimentaire des noces du prince Harry et de Meghan Markle est très strict. Uniforme ou costume chez les hommes, robe et chapeau pour les femmes. Dehors, les fans de la famille royale s'habillent comme ils veulent. 100 000 personnes sont attendues sur place. Aux États-Unis, les motivations du tireur de Santa Fe restent inconnues. Cet adolescent de 17 ans a tué 10 personnes dans son lycée. 10 autres sont blessés. C'est la première fusillade dans un établissement scolaire américain depuis celle de Parkland il y a 3 mois. Ce massacre avait déclenché une mobilisation nationale pour limiter l'accès aux armes à feu. La Ligue de football professionnelle doit fixer ce matin une nouvelle date pour Ajaccio-Le Havre. La rencontre de barrage entre ces deux clubs de Ligue 2 a été reportée hier soir. Le bus qui transportait les joueurs normands et leur staff a été caillassé par des supporters corses. Des insultes racistes ont aussi été lancées. 20e jour de la grève à la SNCF. Ce matin, le trafic est à nouveau perturbé. Comptez 3 TGV et Ouigo sur 5. Côté intercité, un train sur 2 devrait rouler. 2 TER sur 5 devraient circuler en moyenne. Et puis une guitare de Prince vendue 225 000 $ hier à New York, 3 fois sa valeur estimée. Cet instrument était le clou d'une vente aux enchères avec des objets qui ont appartenu à l'artiste.
8h30 politique avec Jannick Halimi et avec Geoffroy Didier, député européen, secrétaire général délégué des Républicains. On a demandé, via un sondage Odoxa d'Ansu Consulting pour France Info cette semaine, aux personnes interrogées quel était pour eux le principal opposant à Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon arrive largement en tête avec 42%, Marine Le Pen est à 29% et Laurent Wauquiez à 17%, un petit peu derrière, alors que la droite possède bien plus de députés et est aujourd'hui la force d'opposition numéro 1. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est un problème de discours, de méthode, d'idées de la part de votre président?
Tout cela ne me surprend pas. Bien sûr que l'extrémisme de droite et l'extrémisme de gauche sont considérés comme les opposants les plus frontaux, parce que ce ne sont pas au fond des partis de gouvernement, parce qu'ils ne sont pas crédibles, mais ils sont violents dans leur opposition. Laurent Wauquiez, les Républicains, nous sommes un parti de gouvernement. nous avons, nous aspirons.
Il y a eu des ministres
être...
communistes sous Lionel Jospin, ça n'avait pas été dramatique
non plus. Écoutez, si pour vous le communisme est une alternative, pas pour moi. Mais nous sommes un parti de gouvernement qui peut constituer une alternative républicaine. Donc forcément que le chemin est plus difficile pour nous, mais je pense qu'il est plus garanti dans la mesure où nous sommes en train de pointer les insuffisances d'Emmanuel Macron, que ce soit sur l'injustice sociale, que ce soit sur les fractures territoriales, que ce soit sur sa très grande faiblesse par rapport à un défi majeur qui est celui de retrouver notre identité, de préserver notre mode de vie en France, que ce soit sa grande faiblesse sur le terrorisme, puisqu'il y a des propositions que nous mettons sur la table et que le gouvernement refuse même d'envisager. Donc oui, je crois que l'alternative, ce sont les Républicains, mais que bien entendu, tout cela prendra du temps. Nous sommes aujourd'hui un contre-pouvoir, parce que je crois qu'il est sain que nous ne laissions pas précisément à Emmanuel Macron, disons à l'opposition d'Emmanuel Macron, le monopole. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas normal que l'extrémisme ait le monopole de l'opposition dans notre pays. Mais même si tout cela arrangerait sans doute Emmanuel Macron.
Justement, vous dites, Geoffroy Didier, que vous pourriez être une force d'alternance. Or, une des critiques tout de même qui monte, c'est qu'on n'entend pas Laurent Wauquiez sur ses propositions économiques et sociales, qui est pourtant un des créneaux qui, au moment de son élection à la présidence du parti, était là où on l'attendait au moins le plus, autant, je veux dire, que l'identité, l'immigration et la sécurité. On ne l'entend pas sur les problèmes économiques et sociaux. Vous ne pensez pas que c'est une de ses faiblesses ?
J'aimerais qu'on prenne un tout petit peu de recul et de voir tout ce qui s'est passé en une année pour l'opposition. Laurent Wauquiez est allé chercher sa légitimité dans les urnes. Il a été élu président des Républicains. C'est d'ailleurs aujourd'hui le seul chef de parti à avoir une vraie légitimité démocratique. On ne peut pas en dire autant de Marine Le Pen qui a été élue seule candidate ou de Christophe Castaner qui a été désigné à l'unanimité par Emmanuel Macron.
Si, mais attendez, je
voudrais juste qu'on prenne un tout petit peu de hauteur par rapport à tout cela. Il est allé chercher sa légitimité dans les urnes. Il a mis en place une nouvelle équipe générationnelle, des personnes qui n'ont, des élus, des parlementaires qui n'ont jamais été ministres. Il a commencé à faire des propositions qui infusent et qui suscitent l'adhésion populaire.
Ah bon, lesquelles ?
Il a pointé précisément les propositions que nous faisons pour lutter contre le terrorisme. Nous
avons pas clairement l'unanimité en votre sein.
Mais regardez les sondages d'opinion. Que vous me trouviez, parce qu'effectivement, c'est la spécialité toujours de quelques journalistes, d'aller chercher la personne bien qui n'est pas d'accord avec nous au sein du bureau politique. Bon. Vous savez, je pense qu'au gouvernement d'Emmanuel Macron, il y en a qui ne sont pas d'accord, par exemple, avec la limitation à 80
km/h.
Même le ministre de l'Intérieur qui est chargé,
vous ne l'expliquez pas.
Même le ministre de l'Intérieur qui est chargé de faire appliquer la nouvelle règle sur les 80 km/h n'est pas d'accord avec cette règle. C'est plus grave dans un gouvernement que dans un bureau politique.
On va en parler des 80
km/h. D'opposition.
On va en parler des 80 km/h, mais sur les avis divergents, sur les tonalités divergentes dans votre ligne politique, j'aimerais vous faire réagir à un autre extrait tout de suite. France Info.
Je pense qu'on est prisonnier d'un piège. La ligne que défend Laurent Wauquiez, à savoir un certain retour aux valeurs traditionnelles de droite, est la bonne. Sauf qu'on est toujours dans le piège où on dit aucune alliance possible, aucun rapprochement possible. Il ne s'agit pas de signer un programme commun immédiatement. Il s'agit simplement de voir que sur certains dossiers, on a des points communs.
C'est l'ancien député Thierry Mariani qui parle. Vous avez, Laurent Wauquiez a été clair là-dessus, il n'y aura pas d'alliance avec le FN, mais on a longtemps reproché, et notamment vous, l'opposition, aux socialistes de faire des synthèses parfois sans queue ni tête. Comment aujourd'hui vous pensez qu'il est tenable de rassembler au sein même des Républicains des Valérie Pécresse et des Éric Ciotti ? Est-ce que tout ça ne peut pas un jour voler en éclats ? Parce que les positions sont quand même diamétralement opposées. Comment
sur
vous réussissez ça ?
Sur quoi ?
Valérie Pécresse elle-même a dit qu'il ne fallait pas courir après le Front National et que le parti risquait d'imploser.
Mais qui court après le Front National ?
Mais les puisque propositions de Laurent Wauquiez, c'est ce qu'elle sous-entendait.
Après les électeurs du Front
courir
National.
Après le Front National, premièrement, je reprends vos propos. Deux, c'est ce qu'elle sous-entendent. Est-ce que vous pouvez me trouver une proposition qui a été
quand vous tentez de remettre en cause le droit du sol, par exemple.
Oui, nous pensons effectivement que ce qui doit l'emporter, c'est la volonté. Et moi, je préfère que les Français, les étrangers deviennent Français parce qu'ils le veulent et parce qu'ils l'ont décidé à l'âge de 18 ans et parce qu'ils ont dit oui, je veux devenir Français plutôt que l'automaticité qui fait que, qu'on le veuille ou non, on devient Français.
Je vous pose la question différemment.
Ce n'est pas être du Front National que de dire ça.
Est-ce que vous pensez qu'une ligne de droite forte est celle qui pourra le mieux marcher électoralement ? C'est ça la question.
Mais bien sûr, moi, je préfère que la droite soit forte que faible. Oui, effectivement. Est-ce que ça veut dire que je cours après le Front National ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? C'est un blabla journalistique qu'on nous a
inventé. Je citais Valérie Pécresse, c'est pas moi.
Mais non, mais attendez, mais écoutez, moi je parle pas de Valérie Pécresse, que je respecte profondément, je travaille avec elle au quotidien.
Xavier Bertrand a quitté les Républicains, notamment pour cette raison.
Grand
ce n'est pas du blabla journalistique.
Grand bien lui fasse. C'est un blabla journalistique qu'on nous sert depuis 20 ans à nous expliquer que la droite court après le Front National. Vous savez après qui nous courons? Après les Français. C'est-à-dire que oui, effectivement, nous voulons leur montrer et leur démontrer par la force de nos propositions que nous entendons leur colère et que nous entendons leur message. Et vous devriez plutôt être content qu'il y ait une opposition qui tente d'apaiser les craintes, de répondre à la colère des Français, plutôt que d'en laisser le monopole à Marine
Le Pen.
Sauf que ça ne
fonctionne
pas. Vous devriez
pas
plutôt féliciter Laurent Wauquiez.
Ça ne semble pas fonctionner.
D'incarner cette opposition forte plutôt qu'à chaque fois de nous faire des procès d'intention consistant, dès que nous faisons une proposition sur l'immigration, sur la sécurité et sur la lutte contre le communautarisme, que soi-disant que nous serions en train de courir après le Front National.
On va parler des réformes.
Je trouve ce blabla journalistique insupportable et insultant pour les Français. Et je vais vous dire, insultant aussi.
Je peux parler?
Oui, mais je réponds aussi. Insultant pour tous ceux qui se sont tournés vers Marine Le Pen par exaspération et par désespoir. Et ces gens-là en ont ras-le-bol qu'on leur assène des leçons de morale. Ce sont des Français comme les autres. Ils se sont tournés effectivement Marine Le Pen, vers Marine Le Pen, pas forcément parce qu'ils seront xénophobes ou je ne sais quoi. Ce sont des Français qui sont souvent exaspérés et il n'y a pas de sous-Français et de sous-électeurs dans
notre
pays.
Non, mais ils préfèrent l'original à la copie.
Dans un instant, on va parler.
Mais ce sont des clichés journalistiques. Ils préfèrent l'original à la copie. Moi, je souhaite qu'ils préfèrent Laurent Wauquiez à Marine Le Pen. C'est notre combat et j'estime même que c'est notre honneur de s'être fixé pour mission d'essayer d'apaiser les colères de nos concitoyens. Entendez ce message, je vous le dis fortement, effectivement.
Alors entendez mon message, c'est qu'il faut qu'on s'arrête à un moment donné, parce que l'info revient sur France Info dans un instant.
Ça aussi c'est de l'information,
vous savez. On va parler des routes et de la fameuse limitation à 80 km/h et de la SNCF avec vous, Geoffroy Didier, 8h50, l'info avec Marc Potvin.
Son biographe l'a décrit comme une femme équilibrée, éloquente, réfléchie. L'ex-actrice Meghan Markle va rejoindre la famille britannique aujourd'hui. Elle se marie avec le prince Harry à Windsor, près de Londres. La cérémonie aura lieu dans la chapelle Saint-Georges. Dans l'assistance, il pourrait y avoir le couple Beckham, mais aussi Elton John et son mari. Cuba en deuil national aujourd'hui et demain. Le pays pleure la mort d'une centaine de personnes dans le crash d'un avion. L'appareil s'est écrasé peu après le décollage hier à La Havane. La majorité des passagers étaient cubains, d'après les médias sur place. Les autorités signalent 3 survivants dans un état critique. Un revers pour le Premier ministre sortant en Irak. Haider al-Abadi, soutenu par la communauté internationale, arrive 3e des élections législatives. Le populiste Moqtada Sadr, allié aux communistes, est en tête. Il doit passer par la case coalition pour pouvoir gouverner. Pas de match entre les footballeurs d'Ajaccio et ceux du Havre. Hier soir, la rencontre de Ligue 2 a été reporté en cause des supporters corses. Ils s'en sont pris au bus qui transportait les joueurs normands et leur staff. Des bombes artisanales ont été lancées, des insultes racistes ont été proférées. Et puis, circulation difficile à prévoir sur les routes aujourd'hui. Premier jour du long week-end de la Pentecôte, la journée est classée orange dans le sens des départs.
Info. 8h30 politique sur France Info. On va parler de la SNCF dans un instant avec vous, Geoffroy Didier. D'abord, une question sur les routes, Jeanne Calimi.
Les routes et les 80 km/h, vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors, Geoffroy Didier, il y a une polémique qui monte au sein du gouvernement. Vous êtes plutôt Gérard Collomb, qui souhaiterait plutôt qu'on conserve les 80 km/h, ou plutôt Édouard Philippe, qui voudrait.
90 pour Gérard
90,
Collomb.
Pardonnez-moi. Ouais. Ouais. Qui voudrait diminuer la.
Oui, enfin, je suis ni Gérard Collomb ni Édouard Philippe, parce que sinon je soutiendrais pleinement le gouvernement. En revanche, je pense qu'il faut arrêter d'ennuyer, et puis, bon, je vais me permettre ce mot, puisqu'il vient de Georges Pompidou, d'emmerder les Français, d'emmerder les honnêtes Français, qui effectivement vont sur les routes parce qu'ils n'ont pas le choix pour aller travailler, parce
qu'ils sont pas obligés d'aller vite.
Comment ?
Ils sont pas obligés d'aller vite.
Ils sont pas obligés d'aller vite.
La sécurité routière, ça a son importance.
Mais bien sûr. Mais qui dit que ça n'a pas d'importance ? Est-ce que vous avez entendu un membre des Républicains ?
C'est la première cause de mortalité sur les routes.
Oui. Et mais
la vitesse.
Non, pas tout à fait. Et vous savez que c'est souvent la vitesse combinée à autre chose, combinée à l'alcool, combinée à la drogue. Donc je pense que le gouvernement ferait mieux de mettre le paquet sur la prévention plutôt que de vouloir empoisonner la vie des honnêtes gens. Donc il y a une question de priorité. D'ailleurs, il y a des expérimentations qui ont eu lieu et dont on n'a jamais vraiment obtenu les résultats. Moi, je souhaite effectivement que le gouvernement revoie sa copie sur cette question.
Actualité des transports, toujours. Nous sommes dans un 10e épisode de cette grève alternée à la SNCF. Jusqu'à demain matin, écoutez le PDG de la SNCF. On vous fait réagir ensuite. Guillaume Pépi était sur France Info cette semaine.
La loi disait déjà... La SNCF est possédée à 100% par l'État.
Oui.
On va rajouter au Sénat. Elle est en plus incessible à qui que ce soit. C'est-à-dire que les actions sont incessibles. Les cheminots et les Français seront rassurés. La SNCF est 100% publique aujourd'hui. Elle le restera.
Certains ont beau dire que ce mouvement s'essouffle, il continue depuis 7 semaines. Est-ce que vous pensez d'abord que l'État doit faire des concessions aux syndicats? Est-ce que l'État doit se désengager? On vient d'apprendre qu'elle resterait publique à 100%, la SNCF.
Non, l'État ne doit pas se désengager et l'État doit tenir. Et nous soutenons clairement et activement le gouvernement sur cette réforme de la SNCF
que vous avez
nécessaire,
voté à l'Assemblée nationale.
Que nous avons voté à l'Assemblée et que nous aurions dû mettre en œuvre bien plus tôt. Vous voyez qu'il n'y a aucun sectarisme de la part des Républicains, puisque lorsqu'une réforme
là-dessus,
va dans
vous avez
le
aucune
bon
critique.
Sens, aucune, puisque lorsque la réforme va dans le bon sens, on a des préoccupations, bien sûr, sur le maintien des petites lignes, parce qu'il n'y a pas de Français de seconde zone, mais il n'y a pas de critique, et nous appelons le gouvernement à tenir, et nous soutenons activement cette réforme
sur
de la SNCF.
Sur la fin du statut
sinon,
également. Hein,
pour les... Bien sûr, et sur la fin du statut. Comment voulez-vous que la droite soit crédible si elle n'est pas cohérente avec elle-même? C'est une réforme que nous avions appelée de nos voeux. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un gouvernement de droite qui aujourd'hui la met en œuvre que nous n'allions pas la soutenir. Donc nous l'avons soutenue et la preuve, nous l'avons votée.
Geoffroy Didet, on va passer à un dossier que vous connaissez bien puisque vous êtes chargé du logement et de la rénovation urbaine au Conseil régional d'Île-de-France. Que pensez-vous de ce qu'on appelle le plan Borloo sur justement les banlieues, les quartiers difficiles? Est-ce que vous pensez qu'il est à la hauteur de la situation et que le gouvernement devrait s'en inspirer fortement?
On n'apprend pas le chemin, apparemment.
Voilà.
Tout à fait. Aussi perfectible soit-il, le plan Borloo a l'immense mérite de remettre la condition des banlieues au cœur du débat public. La rénovation urbaine a été salutaire. Il suffit de le voir dans beaucoup de quartiers que je connais. J'étais hier à Montgeron, chez François Durovray, dans l'Essonne. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Meaux, dans la ville de Jean-François Copé, à Sartrouville, à Gonesse, dans tellement de quartiers qui, heureusement, ont bénéficié d'une rénovation de la construction et du bâti. Le problème, c'est que tout cela s'est arrêté il y a quelques années. Et qu'en réalité, lorsque j'entends qu'on a mis des milliards d'euros dans les banlieues, il faut bien savoir que cet argent, aujourd'hui, n'est plus versé parce que la situation est bloquée.
Et il faut verser d'autres, des milliards,
oui,
apparemment, une quarantaine de milliards, vous pensez
que c'est...
Il
faut mettre de l'argent là où c'est indispensable, parce que dans la bataille culturelle que se livrent la République et le communautarisme, il y a aussi une bataille économique. Et qu'en réalité, ceux qui veulent défier la République sont aussi en train d'investir dans ces banlieues. Et si tout d'un coup la puissance publique, sous prétexte qu'il y aurait déjà eu trop d'argent par le passé, s'arrêtait d'investir, je dis bien investir dans les deux sens du terme, dans ces quartiers qui sont enclavés, qui sont difficiles, qui concentrent toutes les difficultés, effectivement, ce serait un problème. Et puis, vous savez, le vrai problème, c'est celui du peuplement. C'est celui de la maîtrise du peuplement. Et nous avons pris nos responsabilités avec Valérie Pécresse, où nous avons dit, lorsque nous avons constaté que des maires socialistes et communistes, par le passé et par idéologie, avaient ghettoisé certains quartiers, avaient concentré les difficultés dans certaines communes, nous avons dit, nous arrêtons de financer du logement très social dans les communes qui en comptent trop. Et nous avons effectivement contribué aujourd'hui à commencer à déghettoiser certains quartiers. Et puis ce que je souhaite aussi... pour maîtriser le peuplement, parce que c'est ça la vraie question, c'est que les maires qui, eux, sont des maires méritants, qui respectent par exemple la loi SRU, puissent bénéficier de l'attribution des logements sociaux, parce qu'ils ont une légitimité populaire et une connaissance tellement fine du terrain qu'ils savent mieux que quiconque qui, lorsqu'une cage d'escalier ou un immeuble est rénové, qui sont les familles qui sont susceptibles de poser problème dans la même cage d'escalier. C'est ça le vrai débat.
Il vous reste 20 secondes. Est-ce que les Républicains vont mettre le paquet sur les européennes de l'an prochain et est-ce que vous serez un nouveau candidat?
Écoutez, aujourd'hui, je suis député au Parlement européen. J'essaie d'exercer mon mandat aussi bien à Bruxelles qu'à Paris en faisant de la pédagogie sur l'Europe. Vous me réinviterez dans les prochains mois et nous en rediscuterons. En tout cas, sachez-le, les Républicains sont déterminés, effectivement, à faire vivre une Europe parce qu'ils sont profondément européens, mais une Europe qui est manifestement perfectible parce qu'elle doit davantage protéger nos concitoyens plutôt que de les exposer à la mondialisation à l'immigration incontrôlée.
Merci Geoffroy Didier, on n'a pas eu le temps de parler du mariage princier. Merci d'être venu ce matin sur France Info, à suivre sur France Info toute la journée, évidemment. Merci à vous, Jeannick Halimi, on se retrouve tous avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau 8h30 politique. Merci.